Le journal Loïc Barrière. En Tunisie, 6 migrants sont morts noyés et 30 autres portés disparus au large de Zarzis. En Syrie, les forces kurdes ont repris le contrôle total de la prison de Hasakeh. Nous ferons le point sur ces peshmerga soutenues par les États-Unis avec le chercheur David de Rigoulet-Rose. Dans ce journal, nous reviendrons sur la reconnaissance par Emmanuel Macron des drames subis par les pieds noirs en Algérie. Sur Radio Orient, l'historien Benjamin Stora estime qu'il faut aussi que les Français d'Algérie reconnaissent les souffrances des Algériens. Et nous écouterons la réaction du maire de Nice, Christian Estrosi, aux déclarations d'Emmanuel Macron sur les rapatriés d'Algérie. Enfin, journée de mobilisation dans toute la France à l'appel des syndicats pour réclamer des hausses de salaire. Un nouveau drame de l'immigration clandestine. Après le naufrage d'une embarcation au large de Zarzis en Tunisie, les autorités ont retrouvé les corps sans vie de 6 migrants. 30 autres sont portés disparus. 34 migrants ont pu être sauvés par des unités maritimes militaires et de la garde-côte civile. Les forces kurdes en Syrie ont repris le contrôle d'une grande prison attaquée par Daesh, une victoire qui a mis fin à l'assaut djihadiste le plus important depuis 3 ans. Les combats dans cette prison d'Hasakeh ont duré près d'une semaine. Au total, 124 djihadistes ont été tués, de même que 50 combattants kurdes. Un bilan donné par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Gros plan sur ces forces kurdes présentes en Syrie, avec David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Il est également associé à l'IRIS.
Les forces kurdes constituent le noyau dur de ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, les FDS, arabo-kurdes, enfin majorité kurde. Elles sont essentiellement localisées dans le nord-est du pays et elles sont particulièrement présentes dans le gouvernement d'Hasakeh, justement, où se trouve cette prison de Gouéran, qui est une des plus grandes prisons, justement, comprenant les djihadistes qui avaient été capturés après la chute de Baghouz en février 2019, c'est une prison qui compte plus de 3500 prisonniers, et il se trouve qu'elle a fait l'objet d'un assaut le 20-21 janvier dernier, et le bilan tel qu'il a été établi parle de plus de 150 tués, dont une centaine de djihadistes et une cinquantaine de Kurdes et de civils, parmi lesquels probablement des membres des services de sécurité kurdes que sont les assaillés, et puis ça a donné lieu à la fuite de leur domicile de près de 45 000 personnes compte tenu de l'intensité des combats. Donc c'est dire que c'est une affaire très sérieuse.
Et est-ce que cela met en lumière une forme de résurgence de cette organisation terroriste État islamique ?
Ah oui, certainement. D'ailleurs, le 6 janvier dernier, le porte-parole de la coalition internationale anti-Daesh avait rappelé que Daesh constituait toujours une menace existentielle en Syrie et que c'était donc pas possible de la laisser se régénérer. C'était avant les événements en question. C'est dire que ce diagnostic est plus que jamais valable et ça s'inscrit dans une forme de résurgence, en tout cas pas territoriale, parce que le califat autoproclamé a été effectivement démantelé en février 2019. Pour autant, il reste des cellules dormantes nombreuses, et d'ailleurs elles ont été activées à l'occasion de la prise d'assaut justement de la prison en question, puisqu'il y a eu deux voitures suicides, une coordination vraisemblablement avec des djihadistes emprisonnés à l'intérieur, et puis un soutien potentiel de certains sympathisants dans la région autour d'Hasakeh. Donc c'est une question très sensible, et elle est d'autant plus sensible que feu le calife autoproclamé Abou Bakr al-Baghdadi avait s'était exprimé en octobre 2019, enfin avant sa mort en octobre 2019, où il enjoignait justement ses troupes à faire tout leur possible pour libérer justement les détenus des prisons et détruire les murs qui les restreignaient dans leur mouvement. Donc on est exactement dans cette configuration.
Cette volonté de recomposition de ce mouvement et cette attaque en est l'illustration, la libération de ces prisonniers.
Elle en est l'illustration. Alors la question, c'est savoir quel était l'objectif. L'objectif, en tout cas, c'était de libérer des activistes, à la fois pour montrer que l'État islamique était toujours extrêmement actif, et puis pour regarnir des cellules dormantes, des groupes dans la région qui sont en activité. Donc ça pose le problème de la sécurité aussi de ces prisons multiples dont on en charge les Kurdes et qui ont à chaque fois sollicité les pays membres de la coalition justement par rapport au danger que ça pouvait représenter, parce que c'est une charge extrêmement lourde pour eux et ça pose le problème évidemment de la responsabilité des membres de la coalition par rapport à leurs ressortissants.
Et justement, par qui sont-ils soutenus, les Kurdes, aujourd'hui, et notamment les forces démocratiques syriennes ?
Ils sont toujours soutenus par la coalition internationale, au premier rang desquels les États-Unis, qui sont encore présents avec plusieurs centaines d'hommes dans le nord-est de la Syrie. Donc, de ce point de vue-là, il y a encore un soutien militaire qui est assuré. Mais sur le fond, on se pose la question, effectivement, de la garde de ces milliers d'activistes. On parle de 12 000, de près de 50 nationalités. Certains locaux ont été relâchés d'ailleurs, faute de pouvoir assurer leur garde de manière efficace. Et il reste évidemment aussi tous les extranationaux, c'est-à-dire les étrangers qui avaient rejoint le califat proclamé. Et c'est précisément ce qui fait le problème majeur de la situation.
Vous diriez que ces forces démocratiques syriennes représentent un rempart fragile contre le terrorisme aujourd'hui en Syrie ?
Bah, en tout cas, on leur a d'une certaine manière sous-traité la question de ces prisonniers, puisque les pays occidentaux, notamment européens, refusaient de les prendre en considérant qu'ils devaient être jugés pour les crimes qu'ils avaient commis sur place. Le problème, c'est que les Kurdes FDS ne sont pas un État souverain, donc il n'y a pas de justice constituée en tant que telle, et ça rend impossible, en réalité, l'établissement effectivement de processus judiciaires validés au niveau international. Donc, faute de mieux, les Kurdes en sont réduits, si j'ose dire, à devoir garder ces milliers d'activistes dans des conditions souvent extrêmement difficiles.
Avec une responsabilité, vous le soulignez, qui est particulièrement importante.
Oui, elle est particulièrement importante parce qu'effectivement, il y a une crédibilité des Kurdes qui ont participé au combat contre Daesh jusqu'au dernier moment, notamment avec la prise de Baghouz. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette question des prisonniers constitue un problème non résolu, et on peut penser aussi que la question des prisons est d'autant plus sensible qu'elles sont susceptibles de devenir des universités du djihad, comme a pu l'être la prison d'Abu Ghraib en Irak dans les années 2000, des pépinières de djihadistes. En tout cas, c'est certainement pas des endroits où il pourra y avoir une forme de déradicalisation, et c'est bien là tout le problème.
Cette question des prisonniers étrangers notamment qui fait débat dans les pays occidentaux, le retour dans leur pays des djihadistes et de leurs familles.
Oui, parce que la doctrine, alors selon les pays, est modulée, mais dans le cas français, c'est un refus effectivement du retour, sauf au cas par cas pour ce qui est des femmes et des enfants. On l'a vu, cette doctrine n'a pas changé, et donc de manière générale, de toute façon, les pays européens sont extrêmement réticents à prendre en charge les activistes de nationalité européenne, ce qui explique que les Kurdes soient contraints effectivement d'assurer leur garde sur place.
David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et associé à l'IRIS. Il répondait à François-Xavier de Calonne. Le Liban a signé hier un accord avec la Jordanie pour l'acheminement d'électricité via la Syrie. Beyrouth veut améliorer l'état du secteur de l'énergie. Le pays subit des coupures de courant, parfois jusqu'à 22 heures par jour. L'armée jordanienne a tué 27 trafiquants de drogue. Selon Amman, ils tentaient d'introduire de grandes quantités de stupéfiants depuis le territoire syrien vers la Jordanie. Un nouveau geste mémoriel d'Emmanuel Macron. Hier, il a exprimé la reconnaissance de la France envers les rapatriés d'Algérie. Le chef de l'État a reconnu aussi deux massacres qui se sont produits après la signature des accords d'Évian du 19 mars 1962. Il a ainsi qualifié d'impardonnable pour la République la fusillade de la rue d'Isly à Alger, fusillade au cours de laquelle des dizaines de partisans de l'Algérie française furent tués par l'armée française. Notre envoyé spécial à l'Élysée, François-Xavier de Calonne, a assisté à ce discours. Dans l'assistance figurait notamment l'historien Benjamin Stora, qui l'an dernier a remis un rapport au président Macron sur la mémoire de la guerre d'Algérie. Benjamin Stora.
C'est la première fois à ma connaissance qu'un chef d'État se prononce un tel discours sur l'histoire des rapatriés d'Algérie, des Français d'Algérie, comme on dit, des Européens d'Algérie. C'est la première fois. Il n'y a jamais eu de discours prononcé depuis 60 ans. Et j'ai souvent l'occasion de dire qu'en l'espace d'un an, depuis mon rapport, on a fait plus de choses, plus de discours réels prononcés, de reconnaissance assumée, que depuis 60 ans. En 60 ans, il n'y avait rien eu. Sur les immigrés algériens, sur les harkis, sur les rapatriés, sur les cimetières, sur les archives, etc. Il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on parlait en soi de l'Algérie de manière abstraite. Mais là, on a commencé à s'atteler à chacun des problèmes de mémoire pour des groupes particuliers. Et en l'occurrence, c'est vrai que les Français d'Algérie ont beaucoup souffert. Je veux dire, dans l'après-62, c'est évident. Hein, ils ont été aussi dans des conditions très difficiles d'accueil. Dans le fond, c'était français, bien sûr. Mais ils ont été accueillis aussi comme, entre guillemets, des réfugiés, même s'ils ne le vivaient pas comme ça, parce qu'ils étaient profondément français. Mais moi, j'ai vécu ça avec mes parents. Quand il a abordé être dans des garages, dans les... c'est mon histoire. C'est de mon histoire. Avant d'avoir le HLM, on a attendu 3 ans. Je veux dire, 3 ans entassés, enfin bref. Donc il y avait effectivement une forme de reconnaissance qu'il fallait avoir, des mots qu'il fallait avoir pour eux, pour essayer, encore une fois, de décloisonner les mémoires. Que les uns et les autres puissent se rendre compte qu'il y a des souffrances, qu'il y a des choses qui ont été vécues par d'autres groupes. Et maintenant, il faudrait que aussi les Français d'Algérie reconnaissent les souffrances des Algériens, qui ont été énormes pendant cette guerre, pendant leur combat politique, etc. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on reconnaisse les souffrances et qu'on fasse circuler ensuite ces mémoires pour qu'elles puissent se reconnaître entre elles. Donc c'est un démarrage, en fait, aujourd'hui. Et c'est un travail qu'il va falloir poursuivre.
L'historien Benjamin Stora, François-Xavier de Calonne, a également recueilli la déclaration du maire de Nice, Christian Estrosi. Nice, une ville qui a été la terre d'accueil de nombreux pieds noirs après l'indépendance de l'Algérie.
Bon, pour moi qui accompagne la communauté rapatriée dans une ville qui, comme vous le savez, a été marquée par son histoire, puisqu'elle a accueilli en très grand nombre les rapatriés et leur a réservé, ce qui n'a pas été le cas partout en France, un accueil à la fois chaleureux, généreux. Aujourd'hui, je sais, je me suis souvent entretenu avec le président, que le message que la plupart des associations de rapatriés souhaiter que le chef de l'État porte était, même s'il y en a d'autres, naturellement, essentiellement que l'on reconnaisse les erreurs d'une armée mal commandée, comme il l'a rappelé, qui ont tiré sur des Français, des manifestants, sans différenciation aucune, avec l'horreur de la rue d'Isly le 26 mars, d'Oran le 5 juillet, qui sont intervenus après le 19 mars et les accords d'Évian, où pourtant la sécurité de nos concitoyens français d'Algérie était totalement garantie. Donc c'est un temps fort dans l'histoire où à un moment il fallait que cela ressurgisse. Le président l'a marqué avec les mots qu'il fallait. Et j'ai déjà des retours importants, des échos, qui me démontrent que une immense majorité de la communauté rapatriée lui sont reconnaissants. Et aujourd'hui, ont le sentiment qu'une part de justice leur a été rendue. Pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants.
Et cette cérémonie, aujourd'hui, devant les rapatriés d'Algérie, fait partie d'un ensemble, un travail de mémoire qui a été réalisé ces dernières années par le chef de l'État français. Quel regard portez-vous sur les avancées réalisées par Paris sur les questions mémorielles entre Paris et Alger, notamment ?
Il ne peut y avoir de réconciliation qui est pourtant essentielle et nécessaire que si, naturellement, la vérité se fait de toutes parts et à tous les niveaux. On sait très bien que ça n'est pas en demandant des comptes éternellement aux uns et aux autres que l'on aboutira à une réconciliation. Nous voyons déjà qu'elle se fait naturellement. Je vois dans ma ville où nous avons beaucoup contribué à la restauration des cimetières, des sépultures, naturellement aussi à la reconstitution de l'histoire avec de nombreuses conférences. Nous avons célébré à Nice en grand, comme vous le savez, les 50 ans. Nous le ferons le 21 ou le 22 mars pour les 60 ans. Ce sont des étapes successives. Il faut être courageux quand on est chef de l'État pour accepter de veiller à ce que des pages qui étaient collées soient réouvertes, soient mises à nu, que des archives soient mises à disposition de tout le monde en toute transparence et qui sans doute permettra qu'il y ait une plus grande compréhension et que l'on donne à un grand nombre de familles de rapatriés qui avaient le sentiment qu'on leur avait ôté leur dignité, qu'ils ne l'avaient toujours pas retrouvée 60 ans après, de pouvoir aujourd'hui leur rendre cette part de dignité.
Le maire de Nice, Christian Estrosi, au micro de François-Xavier de Calonne. Des manifestations ce jeudi à travers toute la France, à l'appel de plusieurs syndicats, un seul mot d'ordre à quelques semaines de l'élection présidentielle, une hausse des salaires, une revendication qui intervient alors que la hausse des prix du gaz, de l'électricité et de l'essence ont eu des conséquences très lourdes sur le pouvoir d'achat des Français. Enfin, la mort de l'écrivain René de Obaldia, poète, dramaturge, romancier. Il était âgé de 103 ans, il était également membre de l'Académie française. Et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de l'émission « Derrière les discours consensuels sur l'inclusion, quelle place pour le handicap dans la campagne présidentielle ?» et les invités d'Alexis Bachelet sont Virginie Martin, politiste, coprésidente du Conseil scientifique de la revue politique et parlementaire, et Mathieu Hanereau, président de l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Et puis à 21h, l'ICAT sur Radio Orient, Roger Khoury recevra l'avocate libanaise Patricia Elias, militante des droits de l'homme et des droits des femmes. Elle nous parlera de la situation des femmes au Liban. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.